Merci Loïc, merci à l'équipe de Louange. On a vécu vraiment un bon moment ensemble. Et ces enfants secouant les branches d'olivier au milieu de nous, belle image de ce que nous avons fait aussi ensemble. Hein. Alors ce matin, eh bien, on va faire comme d'habitude. On va continuer à parler des thématiques de l'Épître aux Corinthiens que nous avons démarré maintenant, ça fait presque 2 mois. Nous avons déjà abordé plusieurs sujets de cette épître et je vous rappelle simplement ce que nous avons abordé. Et puis moi, je vous conseille, si vous avez raté un culte, eh bien d'aller sur le site Centre Martin Luther King, vous tapez sur Google, ça va vous diriger vers le site et vous allez pouvoir écouter, vous nourrir à nouveau de tout ce que nous avons pu dire ensemble. Alors vous savez, ce sont des messages que nous préparons aussi ensemble avec l'équipe des anciens et ceux qui sont de la commission de l'enseignement. Et c'est pour nous une richesse, grande richesse de pouvoir partager entre nous avant de pouvoir délivrer le texte biblique et le message qui va avec. Alors, on a parlé du contexte particulier à Corinthe. Vous allez savoir ce qui se passe à Corinthe hein, maintenant, à force. On a parlé de la sagesse, on a parlé de la liberté, on a parlé de la communion, on a parlé du rôle des serviteurs dans une église locale, on a parlé de l'union et de la complémentarité dans l'église. Et moi, je suis chargé ce matin de vous partager sur un thème un petit peu spécial, celui, le thème du corps. Non pas du corps de Christ, mais du corps. Ce que nous avons tous et que nous partageons tous en commun. Si vous avez un corps, vous êtes là ce matin. Voilà. Alors, je vous invite à prendre un texte dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 12 à 20. Alors, vous allez... Kevin, si tu peux projeter le texte, en 2 diapos. Voilà. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alors, si vous avez vos Bibles aussi, prenez-les, pas seulement de regarder le texte qui est projeté. Hein. Moi, je vous conseille toujours d'amener votre Bible quand même avec vous. Hein. À force de redites, vous le savez maintenant, l'église de Corinthe est une jeune église issue d'un milieu grec, marquée par une culture grecque. Or, l'apôtre Paul va devoir en quelque sorte rectifier des valeurs qui sont contraires à l'évangile, corriger des pensées qui sont contraires à la pensée de Dieu et qui sont à la source de comportements qui ne sont pas du tout à la gloire du Dieu de Jésus-Christ. Et dans le texte que nous avons lu, Paul va croiser le fer avec les Corinthiens sur ce thème du corps. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi j'ai été avec ce texte pendant une quinzaine de jours, à méditer, à relire, lire, relire, méditer, construire un message, aller voir les commentaires, etc. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, simplement en le disant en première lecture, Paul ne tombe jamais dans un moralisme strict et pur. Il ne dit pas rapidement aller voir les prostituées, c'est pas bien. Il ne dit pas rapidement, aller voir les prostituées, c'est pas bon, c'est pas bon. Aller voir les prostituées, c'est défendu. Aller voir les prostituées, c'est interdit. Il ne tombe pas dans cette espèce de moralisme. Il n'est jamais dans la catégorie de la morale lorsqu'il l'argumente contre la pensée corinthienne. Il prend le temps d'expliquer, il prend le temps de raisonner, il prend le temps de développer et de même de contre-attaquer. Il va lutter pensée contre pensée, argument contre argument. Il affirme, il pose des questions. Plusieurs fois, on retrouve dans le texte, « Ne savez-vous pas ? Ne savez-vous pas ?» hein ? Paul sait que d'abord, le combat, ça se passe à l'intérieur, dans le cœur et dans les pensées. Alors si vous voulez, regardons de plus près la suite des idées. Je les ai mis avec des couleurs différentes. On peut revenir sur la diapo 1 ? Ça peut, ça, Kevin ? J'y suis. Voilà. En noir, les arguments des Corinthiens. Tout m'est permis. En violet, l'argumentation de l'apôtre Paul. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Autre argument des Corinthiens, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre, comme les autres, l'un comme les autres. Réponse de l'apôtre Paul, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Vous voyez ? C'est cette même parallélisme, aliments pour le ventre et ventre pour les aliments. L'apôtre Paul reprend le corps pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Les réponses de l'apôtre Paul commencent toujours par un mais. Mais. Et puis, je vous disais des questions rhétoriques. Je parle doucement, comme ça vous permet de réfléchir en même temps que moi. D'accord ? Des questions rhétoriques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une question rhétorique ? C'est une question à laquelle on ne donne pas de réponses, qui sont évidentes. Hein ? Ne savez-vous pas ? Alors, soit les Corinthiens disent « Oui, on savait », l'apôtre Paul va dire « Mais alors, pourquoi vous pratiquez d'aller voir des prostituées ?» Et si les Corinthiens disent « Non, on ne savait pas », eh bien, l'apôtre Paul peut dire « Maintenant, vous le savez ». Hein ? C'est dommage parce que lorsque j'ai préparé le PowerPoint, j'avais souligné d'autres couleurs, mais malheureusement, lorsqu'on passe du PC au Mac, les couleurs disparaissent. Je ne sais pas, c'est un miracle à l'envers. En quoi ? Alors, lorsque l'apôtre Paul répond, il va répondre par l'Évangile. Il ne répond pas par le moralisme, il répond par l'Évangile. Et qu'est-ce que c'est que l'Évangile ? C'est ce que Dieu fait toujours. L'Évangile est ce que Dieu a fait, indépendamment des œuvres des hommes. Et il va prendre soin, je dirais, de mettre en avant l'Évangile. Seconde diapo, si tu peux revenir, Kevin. Où est-ce qu'on le voit, l'Évangile, ici ? Vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. Où est-ce qu'on le voit encore l'Évangile, ici ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Où est-ce qu'on le voit encore l'Évangile ? Première diapo, Kevin. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Où est-ce qu'on le voit encore l'Évangile ? Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Vous voyez, l'apôtre Paul, lorsqu'il se passe sur des comportements déviants, il va mettre en avant l'Évangile. Et ça, c'est, je trouve, extraordinaire. Il travaille au niveau des cœurs et des pensées. Pas simplement dire « c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est défendu, c'est interdit ». À quoi bon nettoyer le dehors de la coupe si l'intérieur, lui, n'est pas changé ? À quoi bon nettoyer le dehors de la coupe si l'intérieur n'est pas changé ? Alors maintenant, regardons comment fonctionnent les arguments des Corinthiens. Parce que ce sont des arguments, en fait, qui sont très actuels et qu'on peut retrouver encore dans notre culture et dans notre société. Premier argument, aliment pour ventre, ventre pour aliment. Cela sous-entend que le corps a des besoins naturels, que la nature prend soin de manger. Si vous avez faim, vous mangez. Ok ? Si j'ai faim, je mange. Argument repris par les Corinthiens, quoi de plus naturel à fréquenter une prostituée ? La sexualité, un besoin à satisfaire comme tous les autres besoins naturels de notre corps. Ça, c'est un argument que vous pouvez rencontrer dans la rue aujourd'hui. Hein ? Face à une sexualité débridée, je ressens des pulsions sexuelles, je vais les assouffir. Okay ? Et puis, à l'époque des Corinthiens, donc, quand la lettre était écrite, je vous rappelle qu'ils avaient à disposition, sur le sommet de Corinthe, un temple où il y avait 1000 prostituées sacrées. D'accord ? Hommes et femmes. Qui attendent le chaland. Hein ? Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous ne sommes pas à Corinthe, et Nîmes, ce n'est pas Corinthe. Hein ? Enfin, du moins, je ne crois pas. Mais l'argument du besoin à satisfaire est toujours courant dans notre société. Deuxième argument des Corinthiens, Dieu détruira l'un comme l'autre. C'est-à-dire que, en fait, le corps n'est rien et la sexualité n'a pas d'importance dans l'ordre de l'éternité. Pourquoi s'inquiéter alors des répercussions ? Pourquoi en faire tout un plat, puisque l'apôtre Paul prend le ventre et les aliments ? Pourquoi faire tout un plat ? C'est un petit peu comme, si vous voulez, cet argument aussi, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Il n'y a pas de répercussions. La pensée que l'être intérieur n'est pas touché par ce que nous faisons dans notre corps. Les arguments des Corinthiens n'est que la partie immergée de l'iceberg, celle que l'on ne voit pas. La pensée grecque témoigne d'un mépris conceptuel du corps, mais aussi un mépris de la matérialité, de la réalité, au profit des idées du monde surnaturel. En conséquence, peu importe ce que je fais de mon corps, puisque c'est le domaine spirituel qui prime. Et alors, vous avez des penseurs comme Platon, par exemple, qui dit « Le corps, un sac de chair, une prison de l'âme, ou encore, puisque cette pensée-là a commencé à infiltrer l'Église primitive, Bernard de Clairvaux, qui dit « Cet abominable vêtement de l'âme ». Pour Bernard de Clairvaux, ce que vous êtes, ce que je suis dans mon corps, c'est un abominable vêtement de l'âme. Diapo 4. Passons maintenant aux arguments de l'apôtre Paul. Hein ? Et contrairement à la pensée grecque, le corps est remis à l'honneur par l'Évangile, car il est aussi concerné et impacté par le salut. On parle souvent du salut de l'âme lorsqu'on parle entre nous. Hein ? Et lorsqu'on va évangéliser, on évangélise des âmes. C'est comme si le salut ne concernait que les âmes, que l'être intérieur. Alors c'est vrai que le salut concerne l'être intérieur, mais pas que. La grande différence entre le christianisme et toutes les religions du monde, c'est que le christianisme confesse, témoigne de la venue en chair de Dieu, que Dieu s'est fait homme, qu'il n'en avait pas simplement l'apparence, mais la totalité du corps physique d'un homme. On dit que Jésus-Christ s'est incarné. Dieu s'est fait homme, il a pris un corps. Hein ? Et le grand prix payé que Paul rappelle, c'est la mort de la croix, une mort physique, pas une mort spirituelle, une mort physique. Hein ? Et cette mort de la croix, nous allons le célébrer la semaine prochaine, y compris la résurrection. Nous avons été achetés à un grand prix. Et notre corps a été acheté à un grand prix par le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'on devient chrétien, nous employons cette formule. nous donnons notre cœur au Seigneur. Hein? Et lorsqu'on évangélise, on dit « Est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus ?» C'est vrai ou c'est pas vrai ? Veux-tu donner ton cœur à Jésus ? Mais réellement, lorsqu'on devient chrétien, est-ce qu'on donne simplement le cœur ? Est-ce qu'on ne se donne pas entièrement ? Corps, âme, esprit. Seigneur, je me donne, c'est-à-dire je te donne aussi mon corps, je te donne aussi mon cœur, je te donne aussi mes pensées, je te donne tout ce que je suis. Si on donne que notre cœur, notre corps reste un petit peu notre propriété. C'est un peu une dichotomie dans la vie spirituelle, je dirais, dans la vie du christianisme, si on pense comme cela. Alors, lorsqu'on se donne à Jésus-Christ, lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on passe par la nouvelle naissance, il y a ce phénomène extraordinaire qui se passe. Le Saint-Esprit vient habiter. Alors, nous, on dit dans nos cœurs. Mais là, l'apôtre Paul dit dans nos corps. Le Saint-Esprit vient habiter dans un corps qui devient le temple du Saint-Esprit. OK ? Alors, le temple, ce n'est pas simplement un contenant. Lorsque je vais au temple, lorsque, si j'étais juif et que j'habitais à l'époque de Jésus, lorsque je monte au temple, je monte pour rencontrer Dieu. Je ne vais pas simplement vers un lieu physique, je vais pour rencontrer Dieu. Et je dirais que dire que nous sommes le temple, nos corps sont le temple du Saint-Esprit, c'est, je dirais, c'est au travers de nous que de notre corps, de notre manifestation charnelle, je dirais, de notre comportement, de notre éthique, que le Seigneur se manifeste aussi aux autres. Extraordinaire, n'est-ce pas ? C'est quelle responsabilité aussi, quelque part, hein ? Être le temple du Saint-Esprit. Alors, le corps devient membre de Christ aussi. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ ? Notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc je le disais, non seulement le contenant, mais le moyen par lequel Dieu se manifeste. Quand nous prions pour quelqu'un, Christ se manifeste. Lorsque nous évangélisons, témoignons de Christ, Christ se manifeste. Hein ? Par les croyants, vivant en disciples, en communion avec les autres membres, Christ se manifeste au monde. Et je vous renvoie à la prédication de la semaine dernière. Et quatrième argument que l'apôtre Paul utilise, c'est notre corps ressuscitera. Notre corps ressuscitera. Le salut que le Seigneur offre au monde, ce n'est pas simplement de remplir le ciel de petits anges avec des auréoles et assis sur des nuages. Notre salut est corporel. Ce qu'on appelle le paradis n'est pas simplement une présence spirituelle avec Dieu. Notre espérance est la résurrection des corps. Résurrection des corps. Alors certains à Corinthe niaient la réalité d'une résurrection corporelle. Chapitre 15, verset 12. Et Paul leur rappelle, et j'aimerais le lire parce qu'on est juste avant Pâques, et dimanche prochain, lorsqu'on va se réunir plusieurs chrétiens devant la cathédrale Saint-Paul, qu'est-ce qu'on va témoigner ? On va témoigner de la résurrection de Christ, une résurrection corporelle, pas simplement une résurrection spirituelle. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 12, « Voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité des morts, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Etc., etc. Je pense que la semaine prochaine, Pascal nous parlera de la résurrection, alors je ne vais pas lui manger. Là. Je ne sais pas. La résurrection des corps. Norbert va mourir. Un jour, il va mourir. Et Norbert va ressusciter. D'accord ? Plus jeune, plus beau. Mais c'est Norbert qui va mourir, mais c'est Norbert qui va ressusciter. D'accord ? Je ne vais pas être en fusion avec l'éternel. Je ne vais pas être une espèce d'évanescence quelque part avec le céleste. Norbert qui va mourir, Norbert qui va ressusciter. Ok ? Rappelez-vous ça. Et Paul conclut par un principe fort. Glorifiez le Seigneur par votre corps. Alors nous allons voir quelques applications sur ce principe que nous devrions toujours avoir à l'esprit lorsque nous voulons marcher en Jésus-Christ. Glorifier Dieu par notre corps. Et ça ne signifie pas simplement lever les mains le dimanche matin au moment de la louange. D'accord ? Ça, l'apôtre Paul n'avait pas ça en vue lorsqu'il a dit « glorifier Dieu par votre corps ». Bien sûr, vous pouvez le faire. Et il vaut mieux être en conformité avec ce que l'on prêche, hein, et ce que l'on chante. Mais permettez-moi de faire un aparté. Après le chapitre 6 vient le chapitre 7, et l'apôtre parle encore du corps, mais il parle du corps dans le mariage. Alors on va lire ce qu'il dit au sujet de ce mariage. Donc chapitre 7. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. Il est bon qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous privez donc pas l'un de l'autre, l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Ok ? Ça va ? Vous avez lu ? Très bien. On a souvent décrié Paul comme un anti-féministe, un anti-mariage, un anti-jouisseur. Ce texte-là nous prouve bien le contraire. Tu peux passer l'autre ? Vas-y, clique, clique. Clique, clique, clique. Je vous disais, lorsque j'avais fait l'enseignement d'introduction, qu'il y avait des gens qui étaient le fan club de Paul. Il y avait le fan club de Pierre, il y avait le fan club d'Apollos, il y avait le fan club de Paul. C'est sûrement eux qui écrivent à l'apôtre Paul, qui écrivent la lettre à l'apôtre Paul. Et qui disent, il n'est pas bon de toucher une femme ou de se marier. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui le dit. Ok ? Vous rappelez le texte. Souvent, lorsqu'on lit vite, on a l'impression que l'apôtre Paul est contre le mariage. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui dit ça. C'est les Corinthiens qui demandent dans leurs lettres et qui disent, il n'est pas bon de se marier. Ok ? Puisque toi, tu n'es pas marié, nous, on veut faire comme toi. L'apôtre Paul répond, le mariage est un don, tout comme le célibat est un don. Je ne vais pas développer, mais retenez simplement ça. Le mariage, une réciprocité et une protection. Réciprocité, parce que la femme n'est pas simplement à son époux, mais l'époux est aussi à sa femme. Et l'apôtre Paul le dit. Protection, parce que dans un cadre, le cadre du mariage est un cadre de protection. Lorsque j'ai choisi Chantal, j'ai dit non à toutes les autres femmes de la terre. La sexualité dans le cadre du mariage, oui, c'est une source de jouissance et de plaisir. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Nous vous prions. Le corps de la femme est à son mari, le corps du mari est à sa femme. La femme n'est pas qu'un objet sexuel dans la pensée de l'apôtre Paul. Il y a réciprocité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la sexualité dans le cadre du mariage, pour l'apôtre Paul, équivaut à une prière, à la prière. Il ne dit pas la prière est supérieure à la sexualité dans un couple. Il le met à l'égalité. Je vous laisse méditer ça, frères et sœurs qui êtes mariés, et jeunes gens qui n'étaient pas mariés encore, pas encore mariés, rappelez-vous que le mariage est une réciprocité et une protection. Allez, on va passer aux applications que je voulais vous faire dire. Alors, je ne sais pas si vous voyez, miroir, mon beau miroir, surtout, ne dis rien. Ne méprisons pas notre corps, mais acceptons joyeusement sa finitude. Frères et sœurs, on ne peut pas être à deux endroits à la fois. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas à Montpellier. Si vous êtes à Montpellier, vous n'êtes pas à Nîmes. D'accord ? Ça peut être ralent, hein, parce que parfois on aimerait bien être à deux endroits à la fois, être multitâche partout et tout le temps. Hein ? L'homme le plus fort du monde ne soulève que 524 kilos à bout de bras. J'arrive peut-être à 80. Mais c'est loin de ce que peut faire Hulk. Hein ? Le chat a une meilleure vision nocturne que moi. La chauve-souris et le dauphin ont des sens radar que nous n'avons pas. Le caméléon peut changer sa couleur de peau pour se confondre avec son décor. Et le moindre petit moineau sait faire une chose que je ne peux faire que dans mes rêves. Voler. On a un corps limité, frères et sœurs. On n'est pas des super-héros. Vous n'êtes pas des super-héros, je ne le suis pas non plus. De plus, le corps que je suis éprouve de la fatigue. J'ai besoin de bonnes nuits pour me reposer. Mon corps se détériore avec le temps. Un microbe de rien du tout me met à plat. Et un jour, mon corps s'éteindra. Alors, dois-je mériter de cela ? Dois-je mériter de cela ? De toute façon, même si je mérite, ça ne changera rien. Hein ? Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, ce que je suis, mon corps, me rappelle sans cesse où est ma place. Je ne suis qu'une créature. Vous n'êtes que des créatures. D'accord ? Mais une créature qui est voulue, une créature qui est désirée, une créature qui est aimée par Dieu, toujours dépendante de lui, jamais autonome. Car même le souffle de vie qui m'habite m'a été donné par le Seigneur. Des fois, ça m'énerve d'être limité. Mais moi, mon corps ne m'énerve pas. C'est mon esprit, parce que mon esprit, ça m'énerve lorsque je pense qu'il est vraiment limité. Et si on devait me donner 100 milliards d'euros ou de dollars, ce que vous voulez, ou toute la connaissance du monde, je sais ce que je choisirais, personnellement. Hein ? Non. Non. Mais si je peux avoir les deux, je prendrais les deux. Hein ? Mais toute la connaissance du monde, j'aimerais bien l'avoir. Quand je lis, quand j'écoute des choses que je ne comprends pas, parce que mon esprit est aussi limité, ça m'énerve, ça me met dans un état de déprime extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir. Des fois, il m'arrive de pleurer sur ma finitude intellectuelle. Mais quand je dis pleurer, ce n'est pas simplement vrai, véridique. Hein. Alors, c'est ma tentation, Seigneur. Je dis, Seigneur, j'aimerais être comme Salomon, avoir toute la sagesse, mais le Seigneur ne m'a pas donné ce talent-là et ce don-là. Alors, après, à bout d'un moment, je dis, Seigneur, ben Jésus, je te remercie de ce que je suis, simplement, de ce que je comprends, de ce que je connais, de ce que je peux faire, de ce que je ne peux pas faire. Je te remercie, Seigneur. Psaume 139, verset 13, vous le connaissez ? C'est toi qui as formé mes reins, Seigneur, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Ne méprisons pas nos corps, acceptons joyeusement notre finitude. Nous ne sommes que des créatures dépendantes de Dieu. Et c'est extraordinaire. Quelqu'un a dit que lorsqu'on ressuscitera, ce ne sont pas simplement nos corps qui ressusciteront, c'est aussi nos yeux qui auront une nouvelle pensée. Et lorsque nos yeux ressusciteront, lorsqu'ils verront notre corps, ils ne pourront que s'éclamer, si les yeux peuvent parler. « Qu'est-ce que tu étais bien, Norbert ? Qu'est-ce que tu étais beau, Norbert ? Qu'est-ce que tu étais super ?» Alors, dans notre finitude, quand même, Dieu nous fait des clins d'œil. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que notre corps qui est limité, qui est parfois handicapé, qui est souvent malade, eh bien, Dieu anticipe la résurrection et manifeste sa compassion vis-à-vis de notre corps. Et par les mains de frères et de sœurs, peut apporter une guérison, une consolation, un rétablissement. La guérison est ce témoignage de la bonté de Dieu envers nos corps. S'il n'aimait que nos esprits, le Seigneur, allez hop, pssst, Norbert, dans la bière. J'aime la bière. Et parce qu'il prend soin des corps que nous sommes, Dieu pose sa main aussi sur nous. Jésus a été l'homme de douleur. On le dit, homme de douleur. Mais nos corps, et alors on s'imagine que le corps du chrétien doit aussi être corps de douleur. Mais Jésus, à certains moments de sa vie, tout dans l'évangile ne nous est pas raconté. Hein? Mais j'adore les passages où c'est marqué « Jésus tressaillit de joie ». Tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Nos corps ne sont pas simplement destinés à la douleur, à la souffrance, c'est aussi destinés à la joie, à partage de la joie entre frères et sœurs, entre conjoints. Partage, je dirais, de cette qualité de vie que le Seigneur veut nous donner. Seconde application, et je vais bientôt terminer. Prenons soin de nos corps, sans toutefois en faire une idole. Alors, c'est vrai que le culte du corps est une des marques, je dirais, de la culture occidentale. On va se pomponner, on va prendre soin de soi. Bon, ça ne date pas d'hier, hein, même dans la culture grecque, c'était ça. Il y avait les bains publics, etc. Ce n'était pas bien vu de quand même de ne pas sentir bon. Hein. Mais je pense que notre société a développé cette obsession de la beauté extérieure, cette culture du corps. Il ne passe pas une semaine sans qu'à Nîmes, il n'y a pas un nouveau gymnase qui s'ouvre et qui rivalise de prix, 29,90 par mois, 19,90 par mois. Oui. Notre corps et notre apparence extérieure jouent un rôle très important dans notre culture. Et on va se juger selon les apparences. Ma petite fille m'a dit il y a 15 jours, « Papa, papy, tu es un peu moche quand même. » Ne lui répétez pas. Et c'est vrai que je suis un petit peu moche. Merci Seigneur. Bon, si tu n'es pas au top physiquement, si tu ne ressembles pas au top des magazines, si tu n'as pas la silhouette impeccable, si tu as des rides sur ton visage. Hein, si tu n'as pas le canon de la beauté extérieure, tu ne vaux pas grand-chose pour notre société. Ne laissons pas à la culture cette façon de la culture, en tout cas, nous dire ce qui fait notre beauté. Ne laissons pas le miroir nous dire qui nous sommes. Vous êtes magnifiques, frères et sœurs. Vous êtes magnifiques. Car Dieu vous a voulu. Si vous êtes là, c'est que Dieu vous a voulu. Et je vais vous dire une chose, Dieu a bon goût. C'est comme ça qu'on dit, non ? Dieu a bon goût. Il a bon goût. Il sait ce qui est bon. Voilà. Et nos corps sont bons pour lui. Je voudrais dire une troisième application. Lorsque nous avons péché, lorsque nos ancêtres ont péché, Adam et Ève ont péché, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Et ils en eurent honte. Honte de leur corps. Je crois que Dieu les a guéris de cette honte. Mais il ne leur a pas enlevé la pudeur du corps. Parce que Dieu les a habillés. Et lorsque il les a habillés, il ne les a pas remis à l'état, je dirais, de nature nue. Je crois que c'est important de comprendre ça. Que nous avons un corps, il n'a pas besoin d'être dévoilé à tout le monde. Mon corps est pour ma femme. Le corps de ma femme est pour moi. Gardons-nous de la pudeur. La pudeur est un signe de protection aussi. Et je vais conclure. Je ne veux vraiment pas faire du moralisme ce matin. Mettre l'évangile au cœur comme l'apôtre Paul le fait. Et rappeler, vous avez été achetés à un grand prix. Vos corps ne vous appartiennent plus. Amen.